François Bernard.
Retour de... Retour donc à C'est pas du vent. Notre deuxième partie nous ramène en Afrique de l'Ouest et dans les réserves de biosphère. La biodiversité s'est réduite hors de ces zones protégées et les populations savent qu'elles ont là un trésor à préserver. Le développement de l'écotourisme est important, mais faire venir des touristes nécessite des investissements qui ne sont pas toujours à la portée des populations locales. Notre reporter, Agnès Rougier, est allé enquêter sur place.
Si on dit Koudou, dans les pays de Bariba, on dit Koudou, c'est un colis déposé. La pierre ronde là, ce que vous voyez là, c'est comme un colis déposé. En Bariba, c'est ça qu'on appelle Koudou.
Une piste longue et caouteuse qui nous amène là au pied des chutes de Koudou. Mais l'effort en valait la peine, et pour le lieu, et pour l'accueil de Paul, Paul Koba, le gérant de l'hôtel. Nous sommes au cœur de la réserve de biosphère du parc du W du Bénin. Mais juste en face de la rivière, c'est la frontière avec le Burkina Faso. Car le parc W est un parc transfrontalier, qui est situé sur trois pays, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. L'hôtel, tenu par Paul Koba, est constitué de petites tentes, perchées sur les rochers au-dessus de la rivière. L'endroit a tout l'air d'être au bout du monde, et pourtant, cela ne rebute pas un type de touriste spécial, l'amoureux de la nature africaine sauvage. Mais comment tourisme, conservation de l'environnement et vie locale se marient-ils ? Nous sommes aujourd'hui avec Ama Abdou, guide au W du Niger, Jafarou Alitiomoko, directeur de la réserve de la Penjari, et Paul Koba, hôtelier au W Bénin. Monsieur Koba, Paul Koba, donc vous êtes le gérant de ce campement ici, dans cet endroit magnifique aux chutes de Koudou. Pour décrire, je dirais qu'on est assis là sur la terrasse du restaurant, du campement, qui domine toutes les chutes d'eau. Donc il y a devant nous des rochers. Dans le creux, il y a les chutes de la rivière. Au fait, c'est quelle rivière ?
C'est le fleuve de Mekrou.
Ah, c'est ça, c'est la Mekrou.
La Mekrou, oui.
Qui donc se déverse là en deux chutes, dans un petit lac. Et ce lac, il y a des traces au bord du lac. Qu'est-ce que c'est ?
C'est la plage là où les animaux restent pour boire de l'eau, pour manger, pour s'amuser et avant de se remettre dans leur brousse.
Quels animaux ?
Il y a des buffles, il y a aussi les hippopotames, il y a aussi l'éléphant, il y a les cobres de Fassa, il y a les cobres aussi. Ils viennent là, bien boire, bien manger. Et les lions aussi viennent pour guetter les animaux là, pour les manger les soirs.
Ah.
Et les soirs, ils crient souvent ici.
Alors ce campement accueille des touristes ?
C'est le campement qui accueille tous les touristes, surtout les Français. Les Français viennent beaucoup, et de l'Allemagne et du Canada.
Et c'est ouvert toute l'année ?
C'est ouvert toute l'année, on ne ferme pas.
Alors là, la rivière, elle est plutôt à bas niveau.
Ah, à partir du mois d'août, on ne voit même plus les rochers. On voit que atterrit l'eau complètement là-bas. On ne voit même pas les herbes. Les neuf chutes, si vous les voyez, c'est incroyable. Ça chute correctement. On ne voit même pas le sable. Mais c'est à partir du mois d'octobre que ça commence par diminuer un peu. Et ces chutes-là vont cesser maintenant jusqu'en mars ou avril. Et on aura la première pluie ici dans le mois de mai. Ce qui fait que les clients ne viennent pas régulièrement ici, c'est la voie. La voie n'est pas praticable.
Elle est difficile.
La voie n'est pas du tout praticable. Surtout pendant la saison pluvieuse, on ne peut pas arriver ici. Et les ponts qui sont sur la voie là, le pont de poumon là, si c'est rempli, vous retournez automatiquement, sans quoi ça va vous prendre. Si la voie est praticable, on aura toujours des clients ici.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que les gens viennent plus facilement. Vous avez parlé de route. Il faudrait faire quoi? Une route, un pont, un sécurisé
à réparer la voie. Les gens vont arriver beaucoup, les touristes vont arriver beaucoup.
Vous attendez du monde là parce que ça va être le début de la saison pour vous? Oui. Il y a du monde déjà qui a réservé?
Beaucoup. Et peut-être ce soir j'aurai un peu de problème si mes clients sont arrivés.
D'accord, on va voir qu'on partage des chambres. Et nous quittons le W Bénin pour aller vers le W Niger. Ce n'est pas très loin, mais la piste est quand même en très mauvais état. Dans le parc du W du Niger, les infrastructures hôtelières sont au nord du parc, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres au sud de Niamey. La saison touristique est-elle, là aussi, conditionnée par la pluie. Amabdou est guide interrégional, il emmène donc les touristes visiter le parc du W dans son entier, au Niger, au Burkina et au Bénin.
Bon, normalement, la saison touristique avant la naissance du projet Ecopass qui a fait instaurer le parc un système de laisser le parc ouvert 12 mois sur l'année. Avant, c'était du 1er décembre au 31 mai. Mais les touristes commencent à venir à partir de novembre, maintenant jusqu'au 31 mai. Mais à partir du 31 mai, c'est fini, ça commence à réduire. Donc déjà, il fait chaud et beaucoup de touristes ne viennent pas parce qu'il fait chaud, donc ils ne veulent pas trop venir. C'est que les coopérants qui viennent, mais ça aussi, c'est quelques-uns, quoi. Et après ça, bon, maintenant, à partir de mars, avril, bon, c'est fini, il y a la pluie, donc les animaux s'éloignent. Bon, la plupart des gens ne viennent que pour voir les animaux, mais quand ils ne voient pas, donc du coup, ils ne viennent pas, quoi. Ça fait qu'on a au moins 6 mois d'activité et 6 mois de mains croisées sans rien faire.
Ouais. Ouais, parce que le parc est impraticable au moment de la saison des pluies. En fait, les pistes sont impraticables aussi.
Et dans les années passées, il y a des pistes vraiment été impraticables. Bon, maintenant, on a au moins 2 pistes qui ont été compactées par la latérite, de la terre en plus, par des latérites, et qui a fait que maintenant, on peut faire au moins 2 circuits seulement dans le parc. On a une piste qui fait quelque chose d'environ 75 km. Rempli de la traite et un autre qui fait que 20 km seulement. Donc on n'a que les 2 seulement qu'on peut peut-être affronter dans la saison pluvieuse.
Les circuits, c'est plutôt à pied ou en voiture en général?
Bon, il y a des circuits pédestres qui s'appellent les randonnées pédestres, pardon. Et aussi, on a des circuits 4x4. Et parmi les circuits 4x4 aussi, on a la petite balade aussi qu'on fait, qui est des fois le tôt le matin, comme celle qu'on a fait ce matin, ou le soir aussi, on fait souvent ça pour aller écouter un peu la nature, en tant que telle, la musique naturelle, qui est les oiseaux qui chantent à travers tout ça. Et après ça aussi, on a un circuit qu'on fait en 4x4, qui est le circuit national, qui est juste la partie nigérienne, parce que le parc est classé de 3 parties. Donc, la partie nigérienne, la partie béninoise et la partie burkinabé. Donc, du coup, on a des circuits interrégionaux qu'on fait, qui est juste dans la partie du W, et interrégional communautaire aussi, qui est Niger, Bénin, Burkina, donc qui nous permet de passer par le parc W et continuer jusqu'à aller dans le parc d'Arli et le parc de Panjari aussi. Et là, c'est des circuits qu'on fait à bout de 10 ou 15 jours comme ça. Donc, tu fais 5 jours ici, 5 jours au Burkina, 5 jours au Bénin, et ça te permet de profiter un peu partout.
Et les gens qui viennent, alors les touristes, ils sont intéressés par quoi en particulier? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent?
La plupart veulent voir la plus grande mammifère terrestre qui est l'Oxodonta africana. En même temps, si vous voulez, le nom vernaculaire éléphant. Et aussi, il y a Sansurus Kafer qui est le buffle. Et aussi, Leona Panthera qui est le lion. Et aussi, le guépard. Même ainsi que c'est une espèce rare observée. Et que, bon, cette fois-ci, à ce dernier temps-là, avec le système de renforcement du programme Ecopass, ça fait que vraiment, il commence à se montrer. Du coup, les gens, au moins, il y a eu pas mal d'observations l'année dernière. On espère que cette année aussi, ça va être pareil.
Et c'est des gens qui sont plutôt respectueux de la nature, j'imagine, parce que c'est quand même la nature qui est au centre de la curiosité ici.
Bon, c'est tout, c'est beaucoup de gens qui respectaient beaucoup, c'est tous les critères de loi qu'on donne. On dit, bon, voilà, c'est pas permis de descendre là, c'est pas permis de faire ça, c'est pas permis de faire ça. Bon, ils te posent la question à savoir pourquoi, mais quand ils les expliquent déjà pourquoi, ah voilà, et là, ils vont comprendre et ils admettent. Mais sinon, on a des gens, bon, quelques-uns des gens qui viennent, surtout les Asiatiques là, comme genre chinois, japonais. Bon, des fois, quand tu vas aux aires de pique-nique, des fois avec eux, ils descendent. Des fois, ils essayent de courir derrière les animaux. Bon, il fallait que tu les gueules. Voilà, quoi. Tu leur dis, bon, écoutez, si tout le monde fait pareil, vous n'aurez pas le temps de bien les regarder. Ou bien, si tout le monde essaie de les tuer comme vous le faites, vous n'aurez pas l'occasion de les revoir comme vous êtes là. Donc, du coup, faites attention. Vous êtes dans un parc où ça tombe, vous amende. Donc, du coup, voilà, ça les calme un peu.
Ça va bien?
Centre d'interprétation écologique.
Oui, centre d'interprétation écologique.
Hein? Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Bonjour. Peut-être monsieur?
Oui, Tankwano Nathanie. Ici, c'est l'entrée du centre écologique.
Le but, c'est des explications pour les touristes, pour oui. Des enfants, quelquefois, qui viennent.
Oui, oui, il y a les empreintes et un peu des dessins de quelques animaux. Ici, il y a aussi les photos des chauves-souris, des crapauds.
Oui.
Oui, que vous voyez ici. Ici, c'est les empreintes de l'hippopotame.
C'est intéressant, parce que, par exemple, je ne savais pas que l'hippopotame avait 4 doigts.
Oui. À vue d'œil, comme ça, vous voyez son empreinte, vous constatez déjà que c'est l'hippopotame qui a passé ici. Oui, ce tableau s'est fait ici pour donner la forme des crottes de chaque animal.
Mm-hmm. Parce que c'est comme ça qu'on les repère, les empreintes
oui,
et les crottes.
Oui, les empreintes et les crottes.
Alors, on a des crottes de hyène, des
oui,
crottes...
des crottes d'hippotrague. Ici aussi, on a des crottes du gibbe anaché. Le gibbe anaché, c'est... un cobe qui a des traces sur la peau, des traces blanches
oui.
sur la peau, c'est par cela qu'on les distingue.
Voilà les crottes de l'hippotrague Rouen.
Ici, c'est l'hippotrague.
Oui.
oui. Ici, on a les empreintes du cobe de Redenka.
Donc les cobes, ce sont des antilopes.
Oui, oui, c'est les antilopes.
Et ce sont les antilopes les plus fréquentes ici à la Pengari.
Oui, oui, c'est les antilopes fréquentes dans la Pengari. De toutes les sortes.
Retour vers le Bénin. Nous sommes à l'entrée de la réserve de biosphère de la Pendjari, qui jouxte le parc du W Bénin. Nous sommes avec Djafarou Ali Tiomoko, le directeur de la réserve. Alors une question pour vous, Djafarou Tiomoko. Vous travaillez depuis 10 ans dans ce parc, avec les populations. Aujourd'hui, quelles sont donc les retombées du tourisme, que ce soit la chasse ou du tourisme de vision, vers les populations locales, justement?
Et les recettes qui sont issues de la chasse, mais également de la pêche qui est organisée au niveau de la réserve, c'est 30% qui sont reversés aux communautés locales. Donc ça, c'est des retombées directes. Mais il y a également des retombées indirectes. Le tourisme de vision est source d'emploi au niveau de la réserve. Alors tous les garçons qui travaillent au niveau de l'hôtel de la Pendjari et des autres hôtels qu'il y a autour de la réserve utilisent la population locale comme employés. Donc ça, c'est au total plus d'une centaine d'emplois qui sont créés au niveau de la région. Donc là, ça, c'est des retombées indirectes.
Des emplois fixes ou saisonniers?
Des employés saisonniers parce que le tourisme ici se déroule correctement pendant 6 mois dans l'année. Donc l'autre moitié de l'année, la réserve est quasi inaccessible. Donc les hôtels ne tournent pas. Et donc c'est des emplois saisonniers. De la même manière, au niveau de l'administration de la réserve elle-même, offre des opportunités d'emploi au niveau de la population locale. Par exemple, au niveau des entrées, c'est les villageois qui sont recrutés, c'est des déscolarisés qui savent lire et écrire, qui savent faire du petit calcul, qui sont recrutés pour la billetterie, pour vendre les tickets, les droits d'entrée au niveau de la réserve. Même ceux qui gardent la barrière, ce ne sont pas les agents directs du parc, mais c'est des éléments recrutés au sein de la population locale.
Mmh.
Donc voilà pour ce qui est des retombées indirectes, en plus des retombées directes dont j'ai parlé tantôt.
Amadou guide donc au parc W, ici au Niger. Vous êtes payé comment pour faire ce travail de guide saisonnier?
Bon, écoute, au niveau des salaires, ça c'est. Si tu veux, on est payé par chaque sortie qu'on fait avec les touristes. Quand tu as un groupe de touristes qui est parti avec dans le parc en sortant, à la sortie, on te paye. Donc tu as au moins 6 mois quand tu bouges, tu es payé, mais les 6 mois restants, si ça ne bouge pas, tourisme, tu es là, tu as les mains croisées, tu attends que. Voilà, il n'y a pas de choix.
Alors en même temps, on est frappé quand on arrive ici, dans le parc de la Penjari, de la facilité et du nombre d'animaux qu'on aperçoit. Et non seulement qu'on les aperçoit, mais qu'on peut les voir d'assez près, parce qu'ils ne se sentent pas vraiment menacés. On a un peu ce sentiment, ce qui est très différent des autres du parc du W et des parcs alentours. Alors ça, est-ce que ça c'est le résultat de ce travail que vous avez fait? Est-ce que ça veut dire que... ils ne se sentent pas menacés parce qu'ils ne le sont plus ou presque plus, Jafar Otomoko?
Oui, il y a quelques années, la situation n'était pas celle que vous observez aujourd'hui. En 99, lorsque moi je prenais service ici, vous avez des difficultés même à voir les cobes de buffons qu'on voit partout comme des chèvres domestiques, à voir des buffles, à voir même un seul éléphant. Et lorsque vous apercevez un troupeau, c'est la poussière, vous voyez fuir. Donc ça, il y a 10 ans, c'était la même situation que ce que vous décrivez. Mais si aujourd'hui on est arrivé à une telle situation, à faire monter le cheptel sauvage, les effectifs, à assurer une certaine quiétude au niveau de la faune, c'est dû non seulement à un système de surveillance qui implique les communautés locales, mais c'est dû à tout ce corps de mesures dont j'ai parlé tantôt, l'amélioration des relations avec les communautés locales, les retombées économiques, financières, directes et indirectes au profit des communautés locales, ce qui a amené ces communautés à accepter aujourd'hui l'existence de la réserve, à défendre cette réserve, et ça a eu comme résultat ce que vous observez aujourd'hui, qu'il y a une quiétude totale au niveau de la faune sauvage, les distances de fuite sont relativement réduites et le cheptel ne fait qu'augmenter d'année en année.
Mmh. Et alors le tourisme qui est pratiqué ici à la Penjari, c'est un tourisme écologique, c'est un tourisme tourné vers la nature, c'est ainsi que les touristes le vivent quand ils viennent ici?
Oui. On fait un travail de communication, un travail de sensibilisation pour que les touristes puissent avoir de bons comportements, non seulement envers la nature, mais également envers les communautés. Ce qui fait que la forme de tourisme qui a cours ici, ce que nous essayons d'encourager, c'est l'écotourisme. Un tourisme qui respecte le milieu, qui respecte l'environnement et qui apporte des retombées économiques substantielles pour le développement de la région, pour le développement économique des communautés locales qui sont autour de la réserve. Mmh. Et ça, nous faisons un important travail de communication et de sensibilisation des touristes qui viennent.
À la Penjari, comme dans le W, les infrastructures sont prêtes pour accueillir les touristes. Mais aujourd'hui, le plus difficile pour les communautés locales, c'est bien de trouver des moyens de subsistance intersaisonniers. Et puis, il faut tous les ans recommencer à entretenir ces longues pistes qui sillonnent les 10 302 km² du parc W. Tiens, au fait, savez-vous pourquoi on l'appelle W, ce parc? Non? Eh bien, simplement parce que les méandres du fleuve Niger forment la lettre W sur la bordure nord du parc.
Une émission de Radio France Internationale, produite en partenariat avec le réseau MAB UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO et le Fonds français pour l'environnement mondial.
Prochain rendez-vous avec Agnès Rougier, ce sera jeudi pour parler du beurre karité que fabriquent et vendent les femmes de Boumba au Niger.
C'est pas du vent @rfi.fr.
Il est temps de retrouver TerraTech. Dominique Dezonné s'intéresse aujourd'hui à l'industrie photovoltaïque, c'est-à-dire à la production d'électricité grâce à l'énergie solaire. Bonjour, monsieur Dezonné, c'est à vous.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech où nous recevrons aujourd'hui Marc Vogelessen, responsable France d'Enercos, une entreprise spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de systèmes photovoltaïques à fort rendement. Il nous parlera des grands défis technologiques nécessaires pour développer l'utilisation de l'énergie solaire.
TerraTech Actu.
En bref.
Des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébras, rédacteur en chef du mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
Ça se passe au Canada. Au Canada, la ville de Vancouver annonce des JO d'hiver propres pour 2010.
Et pour cela, la ville canadienne a notamment décidé de mettre en place un réseau d'autobus unique au monde, entièrement composé de véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Le procédé mis en place à Vancouver a été inventé par l'ingénieur Geoffrey Ballard et c'est la firme New Flyer qui est chargée de la livraison des véhicules. L'objectif est de faire de ces Jeux 2010 des Jeux totalement neutres en carbone.
TerraTech, l'entretien.
Le soleil est une énergie inépuisable et son exploitation est rendue possible grâce à l'industrie photovoltaïque. Pour pouvoir développer cette énergie renouvelable, de nombreux défis doivent être relevés par l'industrie.
Il faut savoir tout d'abord que les systèmes photovoltaïques restent encombrants et chers. Leur rendement énergétique mérite aussi d'être augmenté. Alors abaisser les coûts ou encore miniaturiser les procédés sont les prochains défis de l'industrie.
Marc Vogelessen est responsable France d'Enercos, un fournisseur de systèmes photovoltaïques clé en main.
Rapidement aujourd'hui, la grande technologie qui est la plus répandue, c'est celle qui consiste à récupérer du sable, de le purifier pour obtenir du silicium. On en fait ensuite rapidement des lingots qu'on découpe en tranches et ensuite on les encapsule dans différents composants, ça peut être du verre, d'autres substrats. On les maille entre elles et on obtient du courant continu qu'il faut transformer en courant alternatif.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'il faut optimiser tout ça. Il y a aussi d'énormes recherches et développements faits dans ce sens et on arrive à d'autres façons de procéder.
Effectivement, les couches minces ont l'avantage d'avoir des matériaux très légers puisque c'est généralement des polymères très souples, donc on peut envisager toutes sortes d'applications sur des toitures un peu biscornues, également sur des surfaces qui sont des surfaces de toiture plate par exemple. Et demain, on espère pouvoir les mettre sur d'autres types de matériaux. On peut envisager même pratiquement d'avoir demain un blouson photovoltaïque lorsqu'on aura correctement maîtrisé les nanotechnologies qui permettront de transformer la lumière radiative en courant continu.
Il y a aussi d'énormes recherches faites dans ce sens. C'est la lumière dite invisible ou celle qui n'est pas comprise entre tel spectre et tel spectre.
C'est vrai, c'est un grand défi de pouvoir transformer l'intégralité du spectre, même la lumière qu'on ne voit pas mais qui existe. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les panneaux polycristallins n'ont que 13 ou 14% de rendement. Couche mince, péniblement, à entre 5 et 6% de rendement, ce qui reste très faible. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à transformer l'intégralité de la lumière. Les nanotechnologies ouvrent la voie à des nouvelles solutions, utilisant des nanocristaux et d'autres composants chimiques permettant de transformer cette lumière invisible qu'on n'arrive pas à transformer aujourd'hui.
Il y a aussi le côté d'optimisation parce qu'on peut mettre ces panneaux en réseau. Il ne s'agit pas simplement de se dire que c'est uniquement pour sa maison, mais on pourrait faire donc des fermes de production d'électricité.
Absolument, oui. Le grand intérêt du photovoltaïque, c'est la production décentralisée. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, la production énergétique, elle est centralisée à un point. Donc on transporte des kilowattheures pour aller alimenter les petites vallées, les hauteurs des montagnes et les grandes villes. Et chaque fois qu'on transporte des kilowattheures, on en perd en route. Le photovoltaïque, on produit localement ses besoins locaux. Par ailleurs, alors après, on l'injecte sur le réseau ou on ne l'injecte pas. Et on peut penser aussi aux pays en voie de développement ou les pays émergents qui n'ont pas d'infrastructure et qui n'ont pas l'argent pour le financer. On peut imaginer effectivement de rendre certains villages complètement autonomes en électricité avec des systèmes photovoltaïques. Enercos France a mis au point récemment et a breveté un procédé pour valoriser les espaces de stationnement en mettant au point une ombrière photovoltaïque qui est assez novatrice car elle ne requiert aucune fondation. Ce module résiste à des vents de 190 km/h. Tout le travail a été de concevoir avec l'aide d'un bureau d'études techniques, d'un architecte renommé à Paris et des compétences du groupe Enercos en photovoltaïque, cette ombrière modulaire, astucieuse, qui se monte rapidement, qui est sans fondation et qui reste esthétique. Tous ces éléments viennent sculpter le paysage environnemental et l'esthétique de nos paysages, ça compte.
Vous l'aurez compris, TerraTech c'est terminé. Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore www.tvagri.info. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Et pour plus d'infos sur le photovoltaïque, rendez-vous sur le site enercos.com, N-E-N-E-R-Q-O-S. Merci Dominique Dezonnet, à demain. Demain dans TerraTech, comment aider le cyberconsommateur à acheter éco-responsable? Réponse avec HopCub, société naissante, une jeune pousse qui propose des solutions innovantes dans le domaine de la consommation durable. Demain, dans C'est pas du vent, on commente l'actualité avec Stéphane Kerkov de l'association Agir pour l'environnement. Voilà, des remerciements pour terminer cette émission à Sophie Janin, à Laura Podorowski et à Yann Bourdelas qui ont participé avec talent à cette édition de C'est pas du vent. Merci à vous d'être fidèles ou même occasionnels à cette émission. Rendez-vous donc demain.
Même planète, même heure.
À demain.